La Blavix.
La Blavix.
Yeah, my neighbor, your neighbor. Can you really trust? Who can we really trust? During times like this.
C'est Blabla Mix.
C'est Blabla Mix.
Blabla Mix, numéro 10, l'émission des personnes réfugiées et demandeurs d'asile. Toc toc, c'est ici, c'est la 10e, un programme tragico-comique. Aujourd'hui, dans Blabla Minute, Steve raconte la Centrafrique. C'est comment la Centrafrique, Steve ? Catherine, dans Blabla Invité, vous aide à apprendre le français. C'est comment le français quand on n'y comprend rien, Catherine ? Hommage aux Indiens. En musique, des Indiens agressés par un oléoduc géant, une chanson de Nina Fischer. Nous l'entendrons tout à l'heure, c'est l'Indien. Attendre, attendre un statut, attendre, attendre ses règles, attendre la nuit, attendre d'avoir 18 ans, attendre le bus. Aïda a écrit un drôle de texte en noir et blanc. La noire, c'est Aïda, la blanche, c'est Laura, et ce sera dans Blabla Accroche. Mais en préliminaire, nous plongeons dans la langue d'anniversaire.
Oui, oh, oh, oh.
Blabla words.
Johnny Matanga Tidungo na radio Blabla Mix. Johnny Matanga Tingu Baleoko.
Cavallo del Mobora,
Johnny Matanga, Tidungo,
Bello Bello
Matanga,
Cavallo del Mobora,
Shubho Janmodin Tomar, Shubho Janmodin Blabla Mix, Shubho Janmodin Tomar. Blabla Mix.
Cavallo det Mubarak. Bela bela.
Shubho Janmodin. Blabla Mix. Shubho Janmodin.
Shubho
Janmodin. Blabla Mix.
Shubho
Janmodin. Blabla Mix. Shubho Janmodin. Blabla Mix.
Blabla Invité.
Bonjour Dipou, comment ça va?
Oui, ça va, merci à toi.
Ah, j'avais marqué en bengali, as-tu bien dormi? Eh bien, non, pas. As-tu bien dormi?
Oui.
Et alors, ça tombe bien parce que quand tu t'es réveillé, eh bien, tu avais ton invité au petit déjeuner et tu nous l'as emmené. Je te laisse nous la présenter.
Bonjour Catherine.
Bonjour Dipou.
Tout va bien?
Très bien.
Alors, qu'est-ce que vous faites dans la CPO?
Alors, dans quoi?
Dans la CPU.
Alors, dans le CPU. Dans le CPU, voilà, je suis bénévole depuis le début de cette association, c'est-à-dire depuis bientôt 10 ans. Je peux expliquer en deux mots de quoi il s'agit. C'est une association qui a été montée il y a une dizaine d'années par les jésuites à Lyon. Et dans d'autres villes, à Paris notamment, et qui a pour but d'aider dans leurs études en France des étudiants étrangers. Donc c'est une association où il y a pratiquement 600 bénévoles, 600 étudiants, pardon, 200 bénévoles et je crois 65 ou plus nationalités différentes. Donc le soutien scolaire, si on peut appeler ça, consiste à apprendre le français à des personnes qui ne le parlent pas du tout, et notamment les demandeurs d'asile. Et puis après, pour les étudiants qui sont réellement inscrits à l'université, les aider dans leur progrès en français, dans la rédaction de leur mémoire, dans la rédaction de leur thèse. Et puis voilà, et c'est un endroit très chaleureux où tout le monde se retrouve, on peut déjeuner ensemble avec les bénévoles, les étudiants, c'est un très bel endroit. Mm-hmm. Voilà.
Est-ce que c'est chaleureux, Dipou? Est-ce que Catherine est gentille?
Oui, très gentille.
Mais qu'est-ce que tu attends, toi, d'un professeur de français, alors que tu ne le parlais pas du tout?
Oui, de vous, oui, je ne te parle pas du tout, maintenant, oui, je parle.
Maintenant, tu le parles?
Oui.
Est-ce que nous pouvons prendre une leçon? Il y a donc Rouya.
Oui.
Bonjour Rouya.
Bonjour.
Est-ce que vous parlez français, Rouya?
Un peu.
Dipou. Catherine, allez-y, vous nous faites la leçon.
Alors, je ne sais pas de combien de temps on dispose.
Trois minutes.
Bon, alors, ça va être très très rapide. En général, je demande dès mon arrivée aux étudiants de se présenter, de dire qui ils sont, d'où ils viennent. En deux mots, je me présente, mais là, c'est inutile puisque je viens d'en parler. Donc, je vais demander à Dipou d'où il vient, son pays, quel est son pays et quel est son besoin en français.
Oui.
Alors, ça a pour but, en fait, de voir un peu le niveau d'expression des jeunes. Donc, Dipou, je sais, se débrouille pas trop mal. Vas-y. Et vous êtes arrivé en France il y a longtemps?
Rouya?
Un an.
Un an. Et vous parliez pas du tout français il y a un an?
Non.
Non. Et maintenant, vous avez appris et vous aimeriez apprendre la grammaire, apprendre à écrire le français, apprendre...
Grammaire.
La grammaire.
Oui, voilà. La grammaire.
Alors, ce que je fais et ce que je peux difficilement faire ici, en général, j'arrive avec des livres. En général, des livres qui s'adressent plutôt à des enfants de 9-10 ans, donc avec un vocabulaire très simple, mais très courant et facile à expliquer. Et au départ de cette lecture, qui en général, ce sont des histoires, on pose des questions, on explique des mots.
Mais allez-y, par exemple, juste un exemple.
Je sais pas, là je vois...
Là vous n'allez pas être déçus si vous lisez les affiches de Radio Canada.
C'est compliqué. Donc je peux raconter l'histoire de... Je fais lire d'abord l'histoire, quelques mots, peut-être quelques lignes. Quelquefois les étudiants ont du mal à prononcer certains sons, le U par exemple, voilà. Donc on répète ce mot-là jusqu'à ce qu'il sonne normalement, en leur expliquant comment il faut mettre la langue comme si, les joues comme ça, pour avoir une prononciation correcte.
Alors allons-y, avec Ulu-Berlu.
Voilà.
Vas-y.
Pas d'où.
Alors, Ulu-Berlu.
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 Ulu, perlu.
Voilà, pas mal. Et vous? Ah non, c'est pas possible. Bon, voilà. Donc tous les mots, voilà, les
Steve
mots
n'a pas de micro.
On explique aussi le vocabulaire, la conjugaison des verbes. Mais je peux difficilement le faire là, étant pas du tout de base.
Enlevez le casque, il vous gêne.
Ah, il me gêne, exactement.
D'accord, donc c'est pas grave, c'était une mauvaise idée. En tout cas, si, on sait que Dipu a prononcé sur son U.
Non, en fait, le but du jeu, c'est de mettre tous ces jeunes qui sont quand même dans des conditions difficiles, de les mettre en confiance. Donc la bénévole est là pour effectivement les aider dans leur progrès en français, mais être là pour être là. C'est-à-dire, s'il y a une difficulté, mais d'ordre, n'importe quoi, scolaire, enfin pas scolaire, mais de, je sais pas, de médecin, de difficultés du quotidien, on est là. Donc c'est vraiment un endroit où l'apprentissage du français est vraiment la base de cette association, mais c'est tout ce qui est autour, les rencontres, l'entraide, voilà.
D'accord. Donc, et CPU, ça veut dire quoi?
Ça veut dire coup de pouce universitaire. Et c'est situé sur le quai, alors je ne sais pas trop l'adresse, c'est exactement en face de la piscine du Rhône, c'est rue Bonald.
D'accord,
ça fait l'angle au bord de l'eau.
Dans le 16e arrondissement.
Voilà.
Juste un petit bout de leçon avec Rouya. Rouya, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre comme phrase? De quelle phrase vous avez besoin? En farsi, peut-être, nous la dire.
Oui. J'aime apprendre le français.
N'importe quel français? Le français pour la cuisine, le français littéraire, le français pour la comptabilité?
Cuisine.
Pour la cuisine. Ah, bah alors je viendrai avec des livres de cuisine. Non, en fait, je trouve que vous parlez bien français, enfin correctement français.
Comment vous pouvez tester le niveau de français? Est-ce que vous pouvez lui demander quelque chose pour que Rouya vous réponde?
Pouvez-vous m'expliquer ce que vous avez fait hier, par exemple? Quelle a été votre journée d'hier? Hier, nous étions samedi. Quel était votre programme hier?
What did you do yesterday?
Mm-hmm.
Je me réveillais.
Je me suis réveillée.
Je me réveillais à 8h. Après, je prends la douche. Après, je prie à douche. Après, je prie petit déjeuner. Après, je prépare déjeuner pour famille. Après, je joue. On va acheter pour course.
Alors moi, je peux vous arrêter et dire que vraiment, il y a déjà une très bonne base parce que vous êtes capable de parler facilement avec les mots qui conviennent. Alors il y a des fautes de conjugaison, il y a quelques vocabulaires qui sont pas exactement les bons vocabulaires, mais avec une habitude, enfin régulière de parler, et quelqu'un qui éventuellement lui dire, je ne sais plus comment on dit, j'ai pris ma douche, non, je vous ai dit, j'ai pris ma douche. Donc c'est un peu comme ça qu'on travaille, c'est-à-dire corriger un verbe qui n'est pas au bon temps, un mot qui n'est pas le vrai mot, mais finalement on vous comprend très bien, donc
moi, je
ayez confiance.
Voilà, ayez confiance, voilà. N'ayez pas peur, Rouya, applaudissements pour Rouya.
Mais dites-moi, Catherine, pourquoi vous faites ça? Vous n'avez pas autre chose à faire que de vous embêter à aller donner des cours à des gens que vous ne connaissez pas?
Alors, et ben pourquoi je fais ça? Parce que je trouve ça excessivement intéressant, simple et très utile, et que j'aime assez le côté pédagogique. Donc, c'est pas du tout un problème, et l'échange avec les étudiants étrangers est très enrichissant. D'abord, ça me permet de perfectionner ma langue, parce que quelquefois il y a des difficultés que je suis incapable d'expliquer, mais qui m'obligent à chercher un petit peu le pourquoi d'une conjugaison ou d'un mot plutôt qu'un autre. Et puis c'est toujours agréable d'être avec des jeunes, parce qu'ils ont tous entre 18 et 30 ans, quoi, ce qui est pas du tout mon cas. Et on crée des liens très très forts avec des gens du monde entier, donc je trouve ça
tellement fort que vous hébergez Dipou,
voilà, par exemple.
Et alors Dipou a beaucoup progressé en français, peut-être parce que il a la chance de converser avec vous.
Voilà, j'ai un peu le réflexe de corriger. Mais je pense que c'est la seule façon de progresser, c'est de sentir en confiance pour parler et savoir que si on a un mot qui ne vient pas ou une faute de grammaire, bon, facilement, hop, je corrige et puis les choses avancent, en fait. Mm-hmm. Voilà.
Et Dipou, quelle est sa grande difficulté? Quel est son point faible? Parce qu'il avait tellement de points forts, ce garçon.
Son point faible? Oh là là, c'est difficile.
Ah, oui. Il a dit November, no shave. Ça, c'est son dicton. Donc, il se fait pousser la barbe.
Oui, j'ai vu. Mais c'est pas si mal.
Ah oui, ça lui va très bien.
Ça lui va très bien.
Dipou, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais poser à Catherine que tu n'as jamais osé lui poser et vraiment savoir?
Non.
Mais si, normalement, si, tu dois dire oui.
Tout est clair. Tout est clair.
Dipou, tu dois interviewer Catherine. Donc tu as réfléchi à une question depuis une semaine. Son rêve.
Oui, tu as posé toutes les questions.
Oh, pardon alors. C'est de ma faute. Quel est votre rêve, Catherine?
Bah, vu mon grand âge, j'en ai pas trop, mais parce que j'en ai beaucoup qui ont déjà été réalisés, donc ça c'est chouette. Mon rêve, que ça continue comme ça, d'être en relation avec des gens formidables, intelligents, discrets, bien élevés, et qui ont toutes les chances de trouver leur place en France. Voilà.
Richard, tu as une question.
Bonjour Catherine.
Bonjour. Et bonjour Richard, au fait. Hein.
J'ai une question. J'ai toujours problème pour connaître les mots. C'est masculin, féminin. Ah. Est-ce qu'il y a quelque chose qui connaît les mots C'est quel mot masculin, quel mot féminin?
Alors, voilà une question difficile qui m'oblige.
C'est comme ça.
Et ben moi, je réponds parce que c'est comme ça. Et c'est à force de parler, de lire et d'écouter des conversations que les mots viendront facilement. Mais si quelqu'un vous corrige régulièrement, si vous dites un table et un chaise, on vous dira non, c'est une table, une chaise. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Voilà.
Non, c'est parce que tous les grammaires actuellement dépendent masculin ou féminin.
Oui.
C'est quand j'ai fait la phase, si je ne sais pas, c'est masculin ou féminin, j'ai toujours tombé mal dans la phase. Qui,
oui, et ben, si vous tombez mal, c'est pas grave, on comprendra quand même. Et, Richard, et puis à la longue, vous direz, vous tomberez juste.
Et Richard, puisque tu es là, on parlait du vocabulaire de cuisine. Alors, comment tu t'en sors? Quel est le vocabulaire que tu as appris dans le CAP de cuisine qui t'a éloigné de nos studios?
Oui, c'est lui.
C'est normal. Est-ce que tu peux nous placer quelques mots de vocabulaire de cuisine?
Oui, c'est... récemment, j'ai pris beaucoup de mots avec utensils.
Les ustensiles.
Oui, c'est les calottes, c'est le rousse, c'est rondou, marmotte, marmite.
Marmite. Vous savez ce que c'est une marmotte?
On met la marmotte dans
Vous pouvez la mettre dans la
marmotte. Oui, tu as vu des marmottes, c'était terrible.
Et les mots, comment dire, comme les ABC, les déglacés et... C'est... Ah oui, c'est obligé.
Vous connaissez
maintenant
sûrement plus de mots en cuisine que moi. C'est un vocabulaire très particulier.
C'est très particulier, oui.
Oui.
C'est, bon, je pense au bengali. Dans mon langue, je ne connais pas c'est tous les noms des ustensiles qu'on utilise. C'est précis, non
c'est précis. C'est très précis,
mais oui.
Mais il y a longtemps que vous faites de la cuisine?
Non, j'ai commencé presque 2 mois.
Ah bah alors. Alors vous avez le temps de tout apprendre.
Hein? Ah oui.
Oui. Il faut être patient en français.
Voilà. C'est quoi votre conseil pour terminer finalement cette interview sur...
Bah, pour terminer, je pense qu'il faut être très motivé et avoir vraiment envie d'apprendre, avoir le courage d'apprendre parce que c'est quand même très difficile. Et puis garder confiance et tout se fait. Vous savez, on grandit tranquillement dans tous les domaines. Il faut beaucoup de patience, mais les choses se font si on y croit. Ah, voilà.
Merci Catherine. Nina Fischer, il était une fois un duo chevaleresque et contemporain, électro, pop et acoustique. L'Indien, c'est le titre qu'ils interprètent. L'occasion pour Blabla Mix de saluer les Sioux et autres tribus indiennes envahies par un oléoduc géant. Oh! Il ne sortira pas, il ne viendra pas. Et moi,
Je suis la gardienne du fort. Je suis la reine du karting. Je suis la femme du requin. Je suis la gardienne du fort. Les dunes chantent. Je suis
bien, c'était Nina Fischer. Ça vous a plu, Steve, Nina Fischer?
Oh oui, c'est une belle chanson. C'est ça. Mm-hmm.
Alors, c'est drôle, Steve, parce que... Bonjour, tout d'abord.
Bonjour, d'abord, merci.
On parlait de français, de la langue française, avec Rouya et Catherine, du CPU, comme dit Dipou. Et alors, vous êtes de Centrafrique, et alors, on dit que votre langue officielle, c'est le français. Ça fait quel effet d'avoir une langue qui est le français alors qu'on est au cœur de l'Afrique?
Ah ben je sais pas, parce que nous on est nés et trouvés déjà, les gens commençaient à parler le français et c'est avec le français qu'on a fait toutes nos études primaires et élémentaires, donc nous on trouve ça normal, parce que si c'est pas avec le français, donc du coup on serait un peu isolé dans le monde, parce que c'est avec le français qu'on arrive à se faire comprendre à l'extérieur de nos frontières. Donc, pour nous, ça a une importance un peu capitale pour le pays, quoi.
D'accord. Donc, pour vous, c'est plutôt positif.
Oui.
Mais est-ce que pour désigner votre pays, le mot, c'est vraiment Centrafrique ou il y a un nom africain? Enfin.
Bon, à l'indépendance, le pays s'appelait Oubangui-Chari, qui est composé du nom de deux fleuves qui encercle le pays, donc il y a l'Ubangi au sud et le Chari au nord. Et après, le président fondateur du pays a vu que le nom Ubangi-Chari était un peu ambigu, donc pour bien situer le pays par rapport à sa position géographique, il a dit la République centrafricaine. Au fait, au départ, c'était comme les États-Unis, c'était les États-Unis d'Afrique centrale.
Les États-Unis d'Afrique centrale.
Oui, qui le voulaient composer avec le Cameroun, le Gabon, le Tchad, le Congo-Brazzaville et la Guinée. Mm-hmm. Mais pour des raisons politiques, donc ça n'a pas bien tenu. Du coup, chacun était obligé de prendre son indépendance et le président Buganda avait vu que c'était mieux de fonder plutôt une république centrafricaine, qui est au cœur de l'Afrique.
Et ça, donc, c'est en quelle époque, le président Buganda?
Là, c'est dans les années 50.
Dans les années 50, juste avant l'indépendance.
Juste avant l'indépendance.
Avant l'indépendance. Oui. Et alors, ça veut dire quoi, Kodorosene Tibe Africa?
Kodorosene Tibe Africa, c'est-à-dire le pays de Centrafrique, le Centrafrique. Kodoro, ça veut dire le pays. Et c'est la terre, donc le pays de Centrafrique.
Et alors, parlez-nous de votre Kodoro, Steve.
Oui.
Vous l'aimez?
Oh là là, c'est notre cœur, notre cher et beau pays, la République centrafricaine.
Quelle couleur est-il?
La couleur de son drapeau.
De son capot?
De son drapeau, ou
ah,
bien?
Ah, de son drapeau. Non, non, moi mais je c'est, ne suis c'est... jamais allé pour avoir quelques images.
Je dirais... Il a une couleur verte parce que c'est la forêt.
Tropicale.
Tropicale, bien sûr.
Donc, quel genre, quelle essence d'arbre? Est-ce qu'il y a des sapins?
Il y a tout. Non, pas les sapins, quand même. Là, c'est en pleine Afrique équatoriale.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples pour qu'on voyage?
C'est un pays qui regorge presque de tout.
Absolument.
Donc,
il y a des animaux.
Il y a plein d'animaux.
Quoi, par exemple?
Les gibiers, les éléphants, le lion, l'antilope.
Donc si on se promène dans la forêt,
oui.
On peut croiser un éléphant?
C'est fréquent. Il y a certains endroits où il est interdit de se promener sans les guides parce que les éléphants sont un peu éparpillés partout.
Et vous en avez déjà croisé?
Malheureusement pas encore.
Non.
Oui.
Est-ce que j'ai une question,
Richard,
est-ce que vous avez des comme un parc
Oui, on a deux parcs zoologiques, qui est le parc Saint-Floris, Manovo-Gonda, au nord du pays, vers la frontière entre le Tchad et le Soudan.
Ah, d'accord.
Et il y a un autre parc qui est au sud, le parc Zanga-Sanga, qui est vers le Congo-Brazzaville. Donc, on a deux parcs principaux.
Ah, mais tous les parcs avec deux autres pays, ensemble?
Non, c'est notre parc à nous. C'est un parc qui appartient uniquement à la République centrafricaine.
Ah, d'accord.
Mais ça se situe entre la frontière de trois pays.
Parlez bien devant le micro, Steve.
Ok, merci.
Tu as eu ta réponse, Richard?
Ah, oui.
Cette Centrafrique, comment va-t-elle aujourd'hui? Pourquoi l'avez-vous quittée, Steve? Est-ce que je peux vous poser la question déjà?
Oui, bien sûr, ça me fait plaisir de répondre. C'est une manière de prendre la parole au nom de beaucoup de mes concitoyens qui n'arrivent pas à s'exprimer quand même. Donc je vous remercie de m'avoir pour donner cette opportunité de m'exprimer quand même aujourd'hui au nom de mes compatriotes centrafricains qui sont dans la détresse constante. En fait, nous, on a quitté le pays, moi en particulier, parce que, comme vous savez, dans les années, à partir de 2012, il y avait une rébellion à majorité musulmane, qui est composée uniquement des mercenaires soudanais et tchadiens, qui ont réussi à s'emparer du pouvoir central à Bangui. Et ils ont commencé à piller, à voler, à violer des femmes, à faire des crimes économiques et virtuels sur la population chrétienne, qui est la population majoritaire dans le pays. Et c'est ce qui avait amené la communauté internationale, la France en particulier, à
envoyer
des soldats pour essayer de stabiliser un peu le pays.
Juste avant de continuer, vous êtes chrétien?
Oui, je suis chrétien. Mais j'ai ma soeur aînée qui est musulmane. Parce que chez nous, les musulmans peuvent devenir chrétiens et les chrétiens peuvent devenir aussi musulmans par l'alliance. Donc j'ai aussi mes neveux qui sont des musulmans parce que ma grande sœur aînée s'est fait marier avec un musulman et elle s'est islamisée. Donc
double identité. Et là vous ne faites pas de l'anti-musulmanisme?
Non, pas du tout, je ne suis pas islamophobe.
D'accord. Donc il y a effectivement eu des factions
musulmanes, oui,
qui ont fait des massacres sur des habitants.
Exactement.
Et pour quelle raison, finalement? Quel était le prétexte?
Ben, du coup, parce que la rébellion, c'est une rébellion qui est fondée par des centrafricains, ceux du Nord qui, pour des raisons politiques, eux, ils se disaient un peu stigmatisés par rapport à d'autres populations du pays. Donc, ils étaient un peu marginalisés. Du coup, pour revendiquer leurs droits, ils ont fait appel à des mercenaires, parce qu'en Afrique, malheureusement, c'est avec des armes qu'on peut s'exprimer. Politiquement, on ne peut pas, même pas dans les urnes. Donc, ils étaient obligés d'aller prendre des mercenaires pour se faire exprimer par rapport à leurs droits. Et quand les mercenaires sont arrivés au pouvoir, d'autres sont des villageois. Une fois arrivés en ville, ils ont vu la civilisation, ils étaient un peu paniqués. Donc, du coup, ils ont commencé à faire du n'importe quoi sur la population chrétienne. Et c'est ce qui a provoqué la réplique de la milice chrétienne et les anti-Balaka contre les syndicats. Parce qu'on ne pouvait pas quand même se supporter de croiser les bras et regarder qu'on vienne violer nos mamans devant nous. En tant que des hommes, on ne pouvait pas quand même en supporter. C'était vraiment insupportable.
Bien sûr. Et les anti-Balaka, vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
Littéralement, Balaka, c'est une machette.
D'accord.
Et du coup, les syndicats, eux, ils avaient des armes... des calibres 12 de tout marque. Alors que les Balaka, ils n'avaient pas de...
Ils avaient des machettes.
Ils avaient des machettes. Ils étaient obligés de prendre des machettes, les flèches, tout ce qui leur tombait mais à la main dessus.
Et les anti-Balaka?
Bon, au fait, c'est un nom vulgaire qui veut dire les gens qui partent contre les machettes. Donc c'est avec la machette qu'on part en guerre.
D'accord, on fait la guerre à la guerre.
À la guerre, voilà.
Et lorsque c'est les mercenaires, comme vous les appelez, tuaient et violaient les femmes, tuaient les enfants, les hommes, comment savaient-ils qu'ils étaient chrétiens, en fait?
Mais ça se voit, parce que chez nous, en Centrafrique, les chrétiens sont des bantous. Et du coup, les bantous, on se reconnaît, on arrive à se reconnaître que celui-là, c'est un bantou, celui-là n'est pas un bantou.
Comment on le reconnaît?
Ben, c'est, je sais pas, mais c'est comme ici, en France, quand vous voyez un gitan, ça vous saute directement à lui que là, c'est un gitan ou bien là, c'est un arabe, ça se voit.
Donc, en fait, on peut dire que c'est du racisme?
Pas du tout. Pas
de
du
résumer tout. Quelqu'un à ça, non?
Pas du tout. C'est pas du racisme, mais on arrive à voir ces différences. C'est Dieu qui l'a fait, c'est naturel.
Et les Peuls ont été massacrés aussi?
Pas du tout. Pas du tout. Parce que les Peuls sont des complices et les Peuls sont des musulmans. Ils sont des Centrafricains, mais ils sont des musulmans. Donc, ils étaient complices avec ces mercenaires. Et c'est ce qui a provoqué la colère des autres compatriotes contre eux. D'accord. Parce qu'on s'est dit que vous êtes Centrafricains, mais juste parce que vous êtes musulmans et vous êtes collaboré avec l'ennemi pendant l'envahissement. Donc, du coup, on vous traite comme des traîtres. Vous n'avez pas votre place parmi nous, donc...
Et donc un beau jour, Steve, vous vous êtes dit, ben, finalement, je n'ai pas très envie de mourir et je vais m'en aller.
Ah, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de perspective d'avenir dans le pays. Parce que vous savez, la vie devenait de plus en plus difficile. À chaque coin de rue, à chaque moment, il y avait soit on a tué celui-ci, on a égorgé celui-ci, on a pillé celui-ci. Ceux-ci ont fui, donc c'était devenu le quotidien du Centrafricain lambda, donc... Du coup, on a dit que non, c'était pas possible. On va pas quand même continuer à vivre dans cet état. Et
vous êtes parti il y a longtemps?
Oui, ça fait... Parce que moi, je suis parti depuis 2013 que je suis à Dakar, au Sénégal. Et avec l'intervention de l'armée française, donc, on avait eu cette... Nous, on avait dit que les choses allaient changer. On avait une bande... On avait un bon espoir que les choses allaient changer avec l'intervention de l'armée française et des troupes de
l'ONU.
Mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme on avait pensé. Et c'est ce qui m'avait poussé à retourner au pays en 2013 pour voir mes parents après la guerre et voir comment ça s'est passé. Mais malheureusement, quand je suis arrivé, les choses ne faisaient que s'empirer encore...
Absolument, ouais. Absolument, 2013 c'était encore pire.
C'était encore pire.
Et aujourd'hui alors, j'ai vu qu'il y avait quand même des velléités de créer des comités de paix qui circulent de village en village, notamment avec l'aide de gens du Rwanda qui ont fait la même chose dans leur pays pour la réconciliation entre Hutu et Tutsi. Il y a des initiatives comme ça. Mais que fait le président, par exemple, dont vous allez nous dire le nom?
Oui, bon, le président Touadéra, c'est le nouveau président qui vient d'être élu. Mais vous savez, c'est un monsieur qui a déjà été dans l'ancien gouvernement. C'était le premier ministre du président Bozizé. Donc, du coup, il n'y a pas eu de grands changements en tant que tel. C'est toujours leur manière de faire qui nous ont conduit à la guerre.
Bozizé qui était un semi-dictateur, donc.
Mais bien sûr, comme presque tous les chefs de l'État de l'Afrique.
Donc,
avec son arrivée, on a vu qu'il n'y a rien de nouveau qui est en train de se passer, c'est toujours les mêmes erreurs. Et le gros problème de la RCA, ce n'est pas le problème purement centrafricain, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de mercenaires qui sont dans le pays. C'est eux qui pillent et c'est eux qui tuent.
Blabla Mix est un shotti
Congo.
Et tu vois le programme Réfugiés de Juno.
Blabla Mix, les.
Blabla Mix, Batini,
Blabla Mix, un lien entre les.
Bangladesh.
Kurde.
Burkina Faso.
Bosnia.
Turquie.
Tunis.
Chine. Afghanistan.
Bahavan, Bikon, puis Blabla Mix.
Kosovo.
Irak.
Biftah Afa. Bichirgirak.
Turc. Bangladesh.
Guinée.
Soudan.
Iran.
Libye.
Pakistan.
Soudan.
Japon.
Blabla Mix is the program of refugees.
Steve s'est échappé de la Centrafrique. Pourquoi ça s'appelle la Centrafrique?
Ben je dis c'est par rapport à sa position géographique. Il est situé au cœur de l'Afrique. Donc c'est ça qu'on dit Centrafrique
pour être sûr.
Pour être sûr, comme l'Afrique du Sud et au sud de l'Afrique.
Et vous, votre cœur, il bat pour qui aujourd'hui, Steve?
Mais ça bat pour mon pays. Ça bat forcément pour ma nation qui est vraiment en souffrance.
Aujourd'hui, vous êtes en France. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été votre première impression de la France? Allez-y, hein, négatif, positif, tout le monde y est passé, Richard, Dipou, dites-nous tout.
Au fait, c'est... je dirais que c'est... j'ai beaucoup de surprises quand je suis arrivé en France. D'ailleurs, bon, arrivé à Paris parce que nous, on se disait d'abord que Paris, c'était presque un paradis. Mais quand je suis arrivé à Paris, j'ai vu que ce n'était qu'une ville comme d'autres. Donc, parce qu'on dit que l'homme n'est jamais satisfait. Donc, quand tu arrives quelque part, tu dis non, pas encore ici, il faut encore devant. Faut... Et là, c'est juste pour rigoler. Mais la première impression que j'ai eue des Français en tant que tel, c'est, je dirais que ce sont des personnes gentilles. Et non des méchants qu'on nous faisait croire étant en Afrique. Ce ne sont pas des soldats, les barracudas ou bien les sangaristes qui pillent et qui violent nos filles. Ce ne sont pas ceux-là qui sont ici, mais ce sont des Français. Il y a beaucoup de gentils qui sont là. Les Français ne sont pas forcément des méchants, mais plutôt des personnes bien généreuses. Et...
méfiez-vous de moi quand même.
Oui, comme toute autre personne, pas que de vous en tant que Française, mais on se méfie toujours de tout le monde.
Donc vous avez plutôt été surpris agréablement.
Ah oui.
D'accord. Mmh. J'ai su quand même que vous avez été surpris de la place des enfants dans la société.
Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'autre fois, vous savez, chez nous, l'éducation est un peu différente que celui qu'on donne aux enfants ici. J'ai vu qu'ici, il y a trop de liberté qu'on accorde aux enfants. Et si bien que il y a des parents qui osent même aller prendre une super mamie pour venir éduquer leur propre enfant. Du coup, j'ai dit, mais là, c'est quand même impossible.
Là, vous regardez trop la télé, là, non?
J'ai dit, mais là, c'est quand même infaisable, c'est quand même impossible. Mon propre enfant que je l'ai mis au monde, comment je vais prendre quelqu'un d'autre pour venir l'éduquer? Mais là, c'est être bête. Donc, du coup, c'est ça.
Mais quelle est la place des enfants chez vous?
Ben, l'enfant reste toujours à sa place. L'enfant n'a pas le droit à prendre une décision.
Jamais?
Jamais, jamais, pas du tout.
Et il doit se taire?
Absolument. Il doit se taire quand ses parents sont en train de parler. Ou bien il part s'amuser avec ses frères. Mais pas décider à la place de ses parents pour dire que non, aujourd'hui, je veux que manger ça. D'ailleurs, chez nous, on n'a pas question de choisir ce qu'on doit manger. C'est ce que tu trouves, tu dis Alhamdoulilah, tu manges et tout. Tu n'as pas à dire que non, moi je ne vais pas manger du biscuit aujourd'hui, je vais du bonbon. Non.
Donc en gros, vous trouvez les enfants français gâtés?
Trop gâtés.
Il faut...
un peu être sévère avec eux, parce voilà. Que aimer un enfant ne veut pas dire le laisser faire. Mm-hmm. Et malheureusement, quand vous voyez, il y a des gens ici qui disent que non, mon enfant est devenu... extrémiste musulman parce que je ne l'ai pas éduqué comme ça, mais c'est parce que tu l'as laissé libre, tu ne lui as pas cadré, que lui-même il a choisi sa voie. En réalité, quand vous avez un enfant, vous devrez lui montrer comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment être avec les autres. Mm-hmm. Mais quand vous dites non, je le laisse choisir ce qu'il veut devenir, ok, mais ne sois pas surpris qu'on vienne vous dire que votre enfant est devenu un gourou. Donc...
Peut-être qu'une famille peut faire appel non pas à Super Nanny, mais à Super Steve qui viendrait cadrer un petit peu et mettre de l'ordre dans votre éducation.
Du coup, moi je ne suis pas du genre à...
Non, ça je vois. Sinon Steve, c'est toujours difficile d'être en exil, ô combien. Mais qu'est-ce qui vous manque le plus?
Ben, je dirais ma liberté, parce que là je suis un peu... C'est une prison qui n'a pas son nom. Imaginez quelqu'un comme moi, j'ai mes diplômes, j'ai fait et tout, mais je ne peux pas travailler, je suis obligé d'attendre. Je ne sais pas pour combien de temps. Et quand moi, je suis encore valide, mais quand vous passez, vous regardez, les gens sont en train de travailler, ça vous dit quoi dans la tête? Qu'est-ce que vous attendez? Vous n'allez pas travailler à la vieillesse, c'est maintenant qu'il faut travailler pour gagner votre vie. Je ne suis pas venu ici pour dormir.
Vous attendez quoi?
Mais j'attends qu'on me donne une réponse à ma demande. Demande d'asile.
C'est quoi vos études, Steve? Une fois que vous aurez votre statut, et nous l'espérons, quel métier pourriez-vous faire?
Ben, tout ce qui me tombera à la portée de la main, parce que moi, je ne suis pas du genre à choisir un métier en tant que tel. Là où je suis prêt à tout faire.
Mais votre diplôme?
J'ai un comptabilité, j'ai un diplôme universitaire et technologique DUT en comptabilité gestion. Et j'ai aussi, j'ai fait l'informatique pour le traitement des tests et saisie à Ouagadougou.
Et quel est votre rêve?
C'est d'avoir un emploi et fonder au moins
une famille.
Une famille, un foyer normal.
Avec des enfants, ouh là là, les enfants.
Avec deux ou trois enfants.
Non mais je rigole. Est-ce que vous auriez aimé être chanteur?
Pas en tant que chanteur professionnel, mais pour amuser la galerie, je peux le faire.
Est-ce que vous auriez aimé être mis au sec? C'est une question que je vous pose pour faire le lien avec Anne, que nous saluons. Bonjour.
Bonjour.
Alors Anne, c'est toi qui as choisi la plage musicale aujourd'hui, et j'aimerais que tu nous parles de ce chanteur qui est breton.
J'ai choisi le chanteur, pas la plage musicale, mais c'est un petit clin d'œil, c'est parce que c'est joyeux. C'est Salut les amoureux de Joe Dassin, mais interprété par Miossec, donc, que j'aime beaucoup sa voix. Il est du même endroit que moi, c'est un Finistérien, et je trouve que sa voix emporte quand il chante ce Finistère-là, duquel je vis loin maintenant, mais dont j'ai toujours besoin. Et donc j'aime beaucoup entendre la voix de Miossec. C'est une voix aussi qui a plein de fêlures, de blessures. Ses textes racontent une vie à la fois pas facile, des douleurs existentielles, et puis en même temps je trouve ça toujours assez sautillant, joyeux. Enfin, dans son dernier album, Mammifère par exemple, il y a de l'accordéon, c'est très joli. Mais là c'est Salut les amoureux.
D'accord, une reprise donc de Joe Dassin, de Miossec. Steve, on vous dédie cette chanson. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios.
C'est moi qui vous remercie.
Bon courage.
Merci.
Et puisque j'y pense, on dédie aussi cette émission à Hassan.
À Hassan.
N'est-ce pas, Hassan qui attend sa réponse et qui l'aura demain. On croise les doigts. On va même allumer une bougie.
À demain qui vient toujours un peu trop vite. Adieu qui quelquefois se passe un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on crâne un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. C'est bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croit plus. On s'est aimé quand on se quitte, tout simplement sans penser à demain. Adieu qui quelquefois se passe un peu trop bien.
Merci beaucoup pour ce choix de chanson, Anne. C'était donc Miossec. L'attente, Steve en parlait. Eh bien, nous allons y plonger. Blabla Croche, c'est une rubrique à laquelle s'accrochent des talents. Aujourd'hui, c'est celui d'Aïda. Aïda, une drôle de fille. Non contente de supporter son adolescence, elle a dû aussi connaître l'exil, perdre ses copains, ses repères, sa culture, ses bars. Et depuis qu'elle est en France, Aïda s'adapte. Et comme bien des collégiennes, elle attend le bus.
Ah. was waiting for the bus in the darkness. My other friends had taken another bus, so I was alone. Anyway, I was waiting in the station. I was bored. Oh no, 10 minutes. I was thinking that how boring waiting is. I was thinking, shit, tomorrow I must go to school, and my head was full of negative thoughts. While thinking, suddenly I heard a voice. Not exactly a voice, but something like a whisper. Then I looked back. I saw a big smile in the glass. I was afraid because it wasn't there when I arrived, and there was no one around. Then I heard the voice again. It was clearer that time. The voice sounded like an old friend. Oh, is that you? Long time no see. It was my old friend, Hope. Where have you been all this time?
That's what I just wanted to ask you.
Well, so tell me, how you found me?
I'm not who found you. I'm not the one who found you.
But how is it possible? I was thinking about how boring it will be tomorrow at the school and all these negative thoughts in my head.
You are right, my friend, but I'm not the one who hurt you. I'm in your heart.
My heart?
Yeah. Yes, your heart.
So why didn't you show up sooner?
I've already told you, my friend. I am not the one who found you.
But I don't understand.
Maybe something we just need to be holding in the dark, boring night to remember our whole friend.
I missed you. We had a very long and deep conversation that night. We talked about how stupid our fight was a long time ago, and we promised that we would never leave each other again over a stupid childish fight. And now we're best friends in the world. And after that, there was no more dark night and no more boring days. Me and my best friend Hope decided to write a book about all our history that we had. So we named it I Hope. I like the pronunciation of the first part of my name, Ida, and her name, Hope. I Hope. Soon at all the world's libraries, I Hope.
Nous parlons le français couramment, mais alors là, tu as allé très très vite. Est-ce que tu peux, pour ceux qui n'ont pas compris, nous dire de quoi il s'agit dans ce texte?
C'était sur moi qui attend dans la red bus, et du coup j'attendais et j'ai m'ennuyais, et il y avait je sais pas comment expliquer, mais c'était sous l'espoir, et avec l'espoir, on pourrait être contente, et il y a des changements avec l'espoir et tout.
Donc c'est plutôt optimiste?
Ouais.
Je dis ça parce qu'on voit sur ta page Facebook, souvent on te voit te mettre une balle de revolver dans la tête, enfin t'es un petit peu gothique. Et en fait t'es plutôt positive alors finalement.
Ouais.
Oh mais c'est exceptionnel. Extraordinaire.
Ben, ça dépend des fois, je sais pas, ça dépend.
Ça dépend de quoi? Du temps?
Non, ça dépend de mood.
De l'humeur?
Ouais.
Bad mood or good mood.
Ouais, exact.
Alors maintenant, nous allons faire une partie de ping-pong avec Dipou.
Ping-pong?
Ping-pong, ping-pong. Ada.
Ajé.
Ame.
Ata.
Kada.
Seda.
Sema.
Sendia.
CST.
CR.
Serra.
DA.
DT.
FRC.
GU.
Gouda.
Ouda.
Ofi.
Uda.
Ofa.
Guda.
Ok, TF.
Pas ok du tout, au QTF.
PA.
Ofi.
Pada.
CNDA.
Huda.
PE.
PN.
POS.
PS.
PS.
Puma.
RSA.
TA.
VPF.
Ada.
Agi.
Ame. Ata. Sada. Seda. Sema. Sendia. Sesta.
FRC,
Gouda,
DT,
Ruda,
CR,
OFI,
CST,
OFA,
CND,
CND, PA,
CADA, ATA,
PA,
AGI,
PN,
AMEUS,
ADE,
PADA, PA, OQTF,
PA,
OFPRA,
BPF,
OPERA, OFI,
ADA,
UDA,
AZA,
CNDIA,
ADA,
DT, CRA, CNDA, CMA,
CNDIA,
CST,
CST,
VPFT,
CAD,
TA,
DA,
RSA,
TA, BF, BPF, RCA, PUMA, PS, POS, PN, PA, OKDF, OFA.
Blabla Mix. Attention, nouvelle mesure pour prendre rendez-vous à la préfecture. Déjà, vous devez confirmer par mail votre rendez-vous. Ça, c'est le nouveau piège que l'on vous tend. Et donc, regardez bien vos mails et vous pouvez aller sur la page Facebook de Singa Lyon, une publication qui date du mercredi 23 novembre et qui explique tout. Et souvenez-vous, Ziyad nous a dit ici même qu'à la préfecture, ils sont très souriants. Alors, allez-y tranquille. Théâtre, l'indépendance est une chose, la pagaille en est une autre. Nous sommes en pleine pagaille, monsieur Lumumba. Extrait d'une saison au Congo, d'Aimé Césaire, que vous pourrez aller voir au TNP, à Villeurbanne, du 2 au 10 décembre. C'est une mise en scène de Schiaretti, donc rien d'exceptionnel, mais en revanche, tous les comédiens sont noirs, ça c'est super. Non, Anne, tu n'es pas contente que je dise du mal des gens, mais tu as bien raison. Nous vous remercions de nous avoir écoutés chez vous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous, eh bien, nous sommes ravis car c'est le 10e numéro. Dipou, est-ce que tu es content ?
Oui, très content.
Est-ce que tu te souviens quand tu as eu 10 ans ?
10 ans ?
Quand tu étais enfant, tu as eu 10 ans.
Mon pays ?
Oui, non mais, petit garçon, tu avais 8 ans, puis
oui.
9 ans.
9 ans, oui, 10 ans.
Et puis 10 ans.
10 ans.
Tu étais content ?
Oui, 8 ans, très petit, 9 ans, après 10 ans, oui.
Et voilà, et après 11 ans.
11 ans.
Et puis 12 ans. Dipou, est-ce qu'on te retrouve la semaine prochaine ?
Oui.
Qui est-ce qu'on reçoit la semaine prochaine ? Otiti.
Je ne sais pas maintenant, oui, on me voit.
Ah, je crois qu'on a un grand monsieur, une grande dame et plein d'invités. Mais dans un instant, vous retrouvez les dreadlocks de Stone Firm, Reggae Radio Show. Merci à Schumann qui était à la réalisation. À Anne, Léna, que vous n'avez pas entendue, mais figurez-vous qu'elle était là très active sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à Aïda, à Laura, à Roya, à Richard et à toi Dipou.
Et toi aussi. Merci, Bernic.
Akio Levé à 20. Vous savez que vous pouvez réécouter l'émission quand elle sera en podcast déposée très prochainement, c'est-à-dire cet après-midi, si tout se passe bien, blog.radiocanu.org, page Blablamix. Vous avez également notre page Facebook Blablamix, que vous allez trouver relativement facilement, n'est-ce pas Dipou?
Oui.
Car tu vas mettre des choses d'ailleurs, tu vas publier des photos, écrire des petits textes.
Oui, c'est Anne qui l'a fait.
Bah oui, Anne, ah oui. Et puis, qu'avons-nous encore à vous dire? Le tweet, Léna.
Oui, alors on nous trouve sur Twitter, il faut taper blabla-du-8, c'est un peu facile.
Blabla-du-8, mix, exactement. Et tout de suite, le générique. On vous retrouve très bientôt. On vous souhaite une excellente journée. Et sachez-le, il est 13h dans 1 minute.
Une minute.
C'est fou, ça. Hein, une minute. Il sera 13h.